Allez, on va parler
de façon insidieuse.
Non, pas tellement insidieuse. Allez, on va parler d'inflation. Ouais, est-ce qu'on doit être heureux? Est-ce que l'inflation est vaincue en Europe? Ça a l'air d'être le cas aux États-Unis. Alors avant de passer la parole à Jean-Marc Daniel, qui va nous expliquer qu'il n'y a pas d'inflation, mais à qui je propose d'aller faire un tour avec moi dans un grand magasin, une grande surface en périphérie de Paris, je vais me tourner vers quelqu'un de beaucoup plus modéré, qui va nous expliquer tout ça. Est-ce qu'on peut dire que l'inflation est derrière nous, en tout cas en Europe et peut-être aux États-Unis?
Alors en Europe, oui, hein, quand on regarde, donc encore une fois, hein, les prix continuent d'augmenter, mais moins vite. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que les salaires continuent de réaugmenter plus vite que l'inflation. Donc concernant le pouvoir d'achat, on avait au début de la crise énergétique une augmentation des salaires plus dans le secteur manufacturier. Et aujourd'hui, dans le ralentissement des prix, on voit que c'est le manufacturier qui ralentit et par contre les services qui se maintiennent. Donc, ce rattrapage de salaire, après avoir été dans le manufacturier, il est dans les services.
Mais ça, c'est pas bon.
Donc, alors, globalement, on a l'inflation qui ralentit. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, c'est une inflation importée. Donc, prix de l'énergie qui ont énormément baissé, qui ralentissent énormément, et prix de l'alimentaire, hein, qui ralentit énormément. Comme c'était plus de 65% de la contribution à l'inflation, c'est d'accord, pour ça qu'on a un très fort ralentissement. Dans ce qui résiste, on l'a dit, hein, c'est les prix plus dans les services parce qu'il y a un rattrapage des salaires.
Okay.
Mais ça reste à un niveau qui est vraiment bas. Et on revient à la situation de 2019 d'avant-crise. Alors, c'est surtout l'année prochaine hein, qu'on va revenir au fameux 2% normalement qu'on aura.
On va revenir en 2025.
L'année prochaine, okay. En 2025. Donc là, qu'on aura.
Là, on est en Europe, hein, toujours.
Toujours en zone euro, toujours okay. En zone euro. Donc c'est vraiment l'année prochaine qu'on pourra dire l'inflation est derrière nous. Alors, juste un bémol, hein, c'est ce qu'a dit vraiment Christine Lagarde lors de la dernière réunion donc, de la Banque Centrale. Attention, on est prudent, c'est-à-dire qu'on va commencer.
Christine Lagarde.
Il faut citer non, la garde.
Comme vous voulez, chacun a ses sources.
Hein. Chacun ses sources, voilà, c'est quand même une source importante. Et donc, ce qu'elle expliquait, c'est que, bien sûr, il y a ce ralentissement, mais il faut faire attention parce que voilà, des chocs exogènes pourraient faire, comme c'est de l'inflation apportée, que ça revienne, notamment sur l'alimentaire. Donc, comme il y avait eu dans la prévision l'idée que l'alimentaire allait baisser plus rapidement que l'énergie, que ça n'a pas été le cas, et donc on a maintenu des hauts taux d'inflation alors qu'on devait avoir des baisses plus rapides qu'anticipées, c'est pour ça qu'on va avoir des baisses de taux, mais qui vont être très prudente, hein, on a déjà 25 BP et peut-être qu'on aura une autre baisse, mais en tout cas ça restera prudent. Et aux États-Unis,
oui.
Là encore, hein, on a aussi une inflation qui ralentit fortement, donc eux aussi l'année prochaine l'inflation devrait être derrière eux. Par contre, c'était pas une inflation du tout de la même nature.
Oui.
Donc parce qu'on a un ralentissement de la politique budgétaire, etc. Donc là, on a vraiment la hausse des taux qui a été efficace. Par contre, on voit qu'elle ralentit moins fortement qu'en Europe parce que les prix de l'immobilier restent quand même assez élevés et maintiennent cette inflation. Et donc c'est vrai que c'est ces prix-là qui expliquent qu'ils n'en ont pas tout à fait fini avec l'inflation.
Vous avez pas de crainte que la hausse d'inflation, parce que ce que vous décrivez, tant mieux, hein, la hausse des salaire soit supérieur à l'inflation et que ça crée du pouvoir d'achat, mais vous n'avez pas de crainte que ça crée non pas une spirale puisqu'il n'y a pas d'indexation, mais que ça crée une inflation par les salaires?
Non, parce que ce n'est pas du tout la même inflation qu'aux États-Unis. On a vraiment eu cette tendance. Là, en Europe, on est beaucoup plus dans un phénomène de rattrapage. Et comme vous avez eu beaucoup de subventions, hein, on va dire artificielles, qui avaient boosté le pouvoir d'achat, bah là, on est beaucoup plus dans un phénomène de normalisation. Les subventions s'arrêtent et les salaires continuent d'augmenter plus que l'inflation. Par contre, le point noir, hein, c'est vraiment la productivité, les gains de productivité par rapport aux États-Unis, de la zone euro par rapport aux États-Unis. Parce qu'en effet, même si on continue de créer des emplois marchands, ce sont des emplois qui sont dans les services et qui sont peu productifs. Donc on en crée beaucoup en volume, mais ce sont des emplois qui créent moins de gains de productivité par rapport aux États-Unis.
Jean-Marc Daniel.
Je croyais que c'était une émission d'actualité.
Ouais. Jean-Marc, non, on n'a pas le droit de parler de...
Mais vous parlez d'inflation. L'inflation, ce n'est pas l'actualité.
Ah si, c'est l'actualité totale.
Non, il n'y a pas d'inflation.
Non, alors Jean-Marc Daniel.
Il n'y a pas d'inflation.
Ah, écoutez-moi bien. Voilà, je suis un ménager, pour ne pas dire une ménagère, de plus de 60 ans, avec mon caddie qui va dans les grandes surfaces.
Un peu cliché, quoi.
D'accord.
Oui.
Non, j'ai dit un ménager, c'est bon. C'est bien, quand même.
C'est bien.
Non, vous pouvez remarquer.
C'est bien.
D'accord. Qui va dans une grande surface en banlieue parisienne. D'accord. Comment vous pouvez m'expliquer à moi ? Expliquez-moi, moi, qu'il n'y a pas d'inflation.
Ah, mais...
Et ne me donnez pas une définition académique qui date de 1293, on s'en fout de ça.
Oui, la réalité. C'est toujours d'actualité. Ce qui s'est dit en 1293 reste pertinent. Et donc, on n'a pas vaincu l'inflation parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il n'y a pas eu de victoire sur un phénomène qui n'a pas existé. Si vous faites vos courses...
Oui.
En tant que ménager,
oui.
Vous apercevrez qu'il y a maintenant des prix qui commencent à baisser.
D'accord. Mais donc, ils ont monté.
Si ah, ils ont monté à un moment donné.
Donc, il y a eu de l'inflation.
Non, il y a eu certains prix qui ont monté, d'autres qui ont été stables, et puis maintenant, vous avez des prix qui commencent à baisser. Par exemple, dans cette émission, la première fois que je suis intervenu, c'était pour parler de chocolatine.
Oui, bien sûr. Beaucoup,
parce que le prix du cacao a augmenté.
On avait une spéciale chocolatine.
Une spéciale chocolatine à cause de l'augmentation du prix du cacao.
Évidemment.
Qui devait se répercuter sur le prix du chocolat, et on se demandait comment on allait passer Pâques. Le prix du cacao est en train de s'effondrer sur le marché, et vous avez un certain nombre d'endroits où désormais la chocolatine a commencé à baisser. On nous parle en ce moment du prix du jus d'orange. Le prix du jus d'orange, c'était 1 dollar la livre de concentré. On est à 4,50 $. Donc on nous dit, on va manquer de jus d'orange, le prix du jus d'orange va s'effondrer. Mais les prix ont déjà commencé à baisser.
J'ai compris. Mais dans la phase de hausse, vous comprenez qu'on ne comprend pas ce que vous dites ? C'est-à-dire que dans la phase de hausse, quand les prix augmentent, vous dites ils sont en train... On a compris, maintenant il y a une désinflation, il n'y a pas d'inflation. Mais dans la phase de hausse, il y a eu de l'inflation.
Non, il n'y a pas eu d'inflation, parce qu'encore une fois, en 1293, année de référence dans votre pensée, on a bien défini l'inflation comme étant un phénomène général et durable. Et donc, comme l'avait dit Madame Lagarde... Madame Lagarde, de triste mémoire. C'est un mécanisme qui sera temporaire. Donc le mot temporaire.
Sauf qu'elle a changé d'avis quand ça est devenu temporaire, elle a changé d'avis.
Oui, mais le mot temporaire heurte directement le mot durable. À partir du moment où c'est temporaire, ce n'est pas durable. Si ce n'est pas durable, ce n'est pas de l'inflation. Ça a deux conséquences. La première, c'est que je pense que l'outil qui a été utilisé, qui était de faire monter les taux d'intérêt, ne répondait pas immédiatement au problème. Il répondait qu'à un autre problème, qui était le fait qu'on ne peut pas vivre durablement dans une économie avec des taux d'intérêt négatifs.
C'était ça l'aberration.
Le deuxième élément, c'est que dans les actualités de la semaine, il y a quand même la faillite du Kenya qui a pris un tour dramatique puisqu'il y a eu des émeutes à la suite des hausses d'impôts décidées pour essayer de colmater la brèche budgétaire du Kenya. Or, pourquoi est-ce que le Kenya est en faillite ? Parce que le taux d'intérêt sur sa dette a considérablement augmenté et il est dans l'incapacité effectivement de faire face. Or, d'après la Banque mondiale, il y a entre 50 et 60 pays qui sont dans cette situation en ce moment.
Et donc,
cette hausse de taux d'intérêt pour répondre à un problème qui n'existe pas est en train de créer un problème qui, lui, va devenir particulièrement douloureux à gérer.
Vous comprenez ce qu'il dit ?
On comprend sur l'aspect, c'est durable ou pas.
La
grande différence, c'est que vous êtes d'accord qu'il y a une augmentation des prix de l'énergie. Bon, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc, l'idée, c'est de dire, c'est ponctuel. Donc, ensuite, ça va partir. Donc, on n'aura plus d'inflation. Quand on regarde les sous-jacents et même les acquis de croissance, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, concernant l'énergie, certes, il y a un ralentissement qui est dû au baril du pétrole, mais que le coût de l'énergie dans la contribution à l'inflation reste élevé et va continuer à moyen long terme, notamment à cause des prix de l'électricité. Donc, là, vous êtes vraiment dans un phénomène durable. Donc, c'est pour ça que je suis un peu en porte-à-faux par rapport à ce que vous avez dit. Sur cet aspect des prix, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. Vous êtes
quand même
d'accord que vous êtes sur une contribution plutôt positive qui va durer cette fois-ci dans le temps.
Alors, je ne suis pas sûr.
C'est
un vrai sujet, c'est l'avenir du prix de l'énergie.
Et vous la prenez au sérieux quand elle parle, elle. Moi vous rigolez, mais elle, vous lui répondez. D'accord.
Oui, bien sûr.
Ouais, bien sûr.
Et donc, bien sûr, vous n'avez pas suivi ses cours. Donc, tant que vous n'aurez pas suivi ses cours, je serai obligé de revenir à cette position. Donc, effectivement, sur le prix de l'énergie, il y a tout un débat. Il y a quand même deux choses que je mets en avant. C'est qu'en ce moment, il y a des moments où l'électricité est à un prix négatif.
En Espagne, ça a été deux mois consécutifs.
Oui.
Vous avez vu que je suis ou pas ?
Oui. Le prix de l'énergie, donc, n'est plus dans les mêmes circonstances. Notamment en France, il y a eu une période un peu étrange où il y avait un certain nombre de réacteurs nucléaires qui étaient arrêtés. Donc, ça, c'était très... géographiquement très localisé. Mais d'une façon générale, on est plutôt dans une phase où, de nouveau, le prix de l'énergie sous forme d'électricité est plutôt à court terme orienté à la baisse. Quant au prix du pétrole...
À la baisse, à court terme.
À court terme,
c'est pas pareil.
Alors après, ça sera
on rebondit sur l'aspect durable de l'inflation. Oui. Donc durable à moyen long terme, c'est pour ça que c'est ce que vous expliquez, que sur ce prix d'électricité, à moyen long terme, il y aura des hausses.
Mais vraiment une seconde, parce qu'il y a des invités qui n'ont pas parlé.
Donc, une fois qu'une hausse de prix a lieu, pour qu'il y ait de l'inflation, il faut qu'elle soit auto-entretenue.
Bien sûr, on a bien compris ça.
Une fois que le prix de l'énergie aura augmenté, je pense qu'il va se stabiliser en poids. Voir qu'il va baisser. Et le deuxième élément sur le prix de l'énergie, là aussi, quand vous regardez les débats autour de ce que je venais d'évoquer, c'est-à-dire la faillite d'un certain nombre de pays africains, un certain nombre de pays comme l'Angola et le Nigeria, qui sont des producteurs de pétrole, disent qu'il y a trop de pétrole à la surface de la planète. Si on brûle tout le pétrole qui est désormais connu et enregistré dans les statistiques, on va faire exploser le climat. Donc il va falloir faire une sorte de quota de pays qui auront le droit de continuer à produire du pétrole. Et ils lisent ceux qui devraient continuer à pouvoir produire du pétrole, ce sont les moins favorisés, c'est-à-dire les pays africains. Et l'Arabie leur a répondu, pas du tout, nous on a des plans de développement et on veut absolument...
Chacun pour sa gueule.
Donc ça va faire une pression concurrentielle et je pense que cette pression concurrentielle sur le prix du pétrole va faire...
Mais est-ce que globalement, sur les prix de l'énergie,
c'est une très bonne nouvelle.
Il y a une contribution positive à l'inflation. Juste ça pour finir.
Sur les prix de l'énergie, c'est important. Jusqu'à présent.